Chapitre 19. Après avoir erré une heure durant à l'aventure, Nicolas entra dans un café. De quitter les lumières tremblantes de la rue, le grand air agité par les vents, les façades toujours semblables des maisons pour un intérieur où les ampoules électriques étaient claires comme des verres, les murs peints de façon à charmer les yeux, lui donna une seconde un sentiment de sécurité. Pourtant, il était pâle. On eût dit qu'il venait d'échapper à un accident. À la clarté éblouissante du café, il inspecta ses vêtements, fit quelques pas et s'assit ostensiblement à la table la plus en vue de la salle. « Comme cela, on ne soupçonnera pas qu'un homme me recherche, » se dit-il. C'était à Charles Perrier qu'il venait de faire allusion. À présent, il vivait dans un monde d'une étroitesse extraordinaire. Tandis que la veille, il avait eu conscience d'être perdu au milieu des hommes, il lui semblait, dans ce café, qu'il était au centre de l'univers. En pensant que c'était un geste de consommateur paisible, il croisa les jambes. Mais il n'ôta pas son chapeau à cause de la peur enfantine que déplacer quelque chose sur lui le trahit. Finalement, comme dans la salle il n'y avait qu'un couple, il se découvrit et, aussitôt après, se regarda dans la glace d'un pilier. Le garçon s'approcha et, à 1 mètre de Nicolas, s'arrêta. Il ressentit alors un profond soulagement. Cet homme, en s'avançant vers lui, lui avait causé une frayeur terrible, cette même frayeur qu'il ressentait dans les cauchemars, quand, lié à des rails, il voyait un train grandir de seconde en seconde. Il respira, fixa son regard dans celui du garçon, puis commanda précipitamment un café. Mais, au lieu de s'éloigner, le garçon interrogea. « Un café ?»« Noir, noir !» répondit hâtivement Nicolas. D'un pas lent qui lui sembla étrange, comme si on l'eût opposé à l'agitation de son esprit, il se retira enfin. Nicolas épongea son front. Il ne se rendait pas encore exactement compte de ce qui s'était passé. Il ferma les yeux, les rouvrit. Un homme s'arrêta au seuil de la salle, chercha du regard un camarade, sans doute, puis disparut. Nicolas prit la tasse que venait de lui apporter le garçon, la porta à ses lèvres. Soudain, une sueur si abondante perla sur son visage qu'il lui sembla qu'on venait de l'asperger. Une contraction du larynx l'empêchait d'avaler la gorgée de café qu'il avait bu. Il s'efforça encore à plusieurs reprises de passer outre, puis, comme s'il étouffait à demi, il se pencha et cracha le liquide sous la table. Il attendit quelques instants, puis, de nouveau, essaya de boire. Cette fois, il eut un haut-le-cœur. Comme un homme qui, tout à coup, ne pourrait plus se servir d'un membre ou parler, ou encore qui deviendrait aveugle, il fut pris d'une frayeur folle. Il eut l'impression qu'il était perdu, que le dénuement dans lequel il se trouvait avait rongé ses organes, qu'une puissance inconnue jugeait que tout cela avait assez duré et se préparait à le précipiter dans quelque gouffre. Pour commencer, elle le signalait aux hommes, à cette anomalie qu'il était incapable d'avaler quoi que ce fût. Partout, les gens le reconnaîtraient à ce détail. Alors il jeta autour de lui des coups d'œil désespérés, tant il redoutait d'avoir été remarqué. Personne ne se souciait de lui. À l'aide de son mouchoir, il essuya la table et la banquette qu'il avait souillée, puis le glissa dans sa poche. « Dès que je sortirai, je le jetterai dans un égout, » pensa-t-il. « Mais qu'est-ce que j'ai donc? Si je ne peux plus avaler, je suis perdu. » Le souvenir d'une scène où il avait ressenti cette impression de ne pouvoir se soustraire à un châtiment lui vint à l'esprit. C'était quand, jeune homme, il avait en cachette fouillé dans le bureau de son père et que, ayant trop tiré un tiroir, celui-ci était tombé à terre, tandis que la bouteille d'encre s'y trouvant s'était répandue sur tous les papiers. Pourtant, il reprit peu à peu confiance. Saisissant de nouveau sa tasse, il essaya d'avaler doucement quelques gorgées de café. Cette fois, il y parvint. Alors, 1000 rayons l'éclairèrent intérieurement. Il pouvait boire. Il était sauvé. Mais comme il savourait son allégresse, il se rappela la scène avec Alice. « Ce n'est pas possible que je l'aie serré ainsi dans mes bras. J'ai tout de même ma raison. » Un à un, il revit tous ses actes. « Mais oui, je l'ai serré contre moi. » Le garçon s'approcha de lui. Il eut instinctivement un mouvement de recul. Ses jambes furent prises d'un tremblement qu'il ne put réprimer. Il les allongea sous la table. Le tremblement cessa. Alors il voulut se tourner pour affecter un air désinvolte, mais son buste demeura immobile. « Ça y est, je ne vais pas pouvoir sortir d'ici !» Son corps ne lui obéissait plus. Soudain, sa main droite se mit, elle aussi, à trembler. Il la regarda avec stupeur. Elle continuait de trembler. Il n'osait l'arrêter, de peur d'en être incapable. « Qu'est-ce qui arrive ?» Il leva la tête, l'abaissa, puis, obéissant à un besoin inexplicable, se leva à demi. Il se rassit. Soudain, l'homme qui se trouvait au fond de la salle serra brutalement contre lui la femme qui était à son côté et, de sa main libre, lui caressa les jambes. Nicolas regarda ce manège avec effarement. Il lui sembla que l'inconnu allait être chassé par cette femme devant tout le monde et qu'il ne s'en doutait pas. Sa main était immobile. Il la porta à son front. Tout était normal. Il se leva et, au moment de sortir, la crainte que ses jambes se dérobassent tout à coup sous lui le mit en nage. Dehors, un brouillard léger mouillait les rues. Un halo pâle encerclait les lumières. Dans le ciel couvert de nuages, la lune apparaissait de temps à autre. « Des gens doivent me poursuivre. Ils sont cachés dans cette brume, » pensa Nicolas. Charles est peut-être rentré plus tôt qu'il ne l'avait dit, dans l'espoir de surprendre sa maîtresse. Il me cherche. Il a prévenu tout le monde. » Ces réflexions affolèrent Nicolas. L'intention d'entrer à nouveau dans le café l'effleura. Un instant, il demeura immobile sur le trottoir. Il s'aperçut alors qu'il était debout sur deux jambes de chair. Cette constatation ne quittait point son esprit. Il lui sembla que s'il faisait un pas, au moment où l'une de ses jambes quitterait le sol, il perdrait l'équilibre. Il eut une sorte de vertige. Le sol lui semblait aussi lointain que s'il se fût trouvé sur un toit. Des lumières, comme parties du fond d'un abîme, montaient lentement vers lui, le dépassaient et se mettaient à danser dans le ciel. Il ferma les yeux. Bien qu'il se tînt droit, il eut l'impression que sa tête penchait de plus en plus et l'entraînait. Il ouvrit les yeux. Les lumières étaient cette fois toutes proches de lui. Il fit un pas, puis deux, et finalement s'éloigna. L'état d'épuisement dans lequel il se trouvait était tel qu'il n'avait plus la force de réagir. Vaguement, il souhaitait un désastre, un tremblement de terre, une catastrophe effroyable, pour renaître dans la paix ensoleillée qui suivrait. Au coin d'une rue, il voulut tourner. Pourtant, il continua droit devant lui. Tout était silencieux. Les quelques lumières qui brillaient dans la nuit avaient l'air d'être tombées au hasard sur la ville. Cette impression qu'il avait souvent ressentie devant des paysages inconnus qui pourtant lui étaient familiers, il l'éprouvait en regardant ces maisons sur lesquelles demeuraient des nappes de clarté pâle venues d'on ne savait où. Il se trouvait seul au centre d'une ville endormie. Il s'arrêta. Devant lui descendait une rue droite, en bas de laquelle se dressaient quelques arbres. Il lui apparut alors qu'il n'y avait pas au monde de douleur plus grande que la sienne. L'image de son père se présenta devant ses yeux. Il vivait encore, sans doute. Au cours des années troubles de son adolescence, il s'était longtemps imaginé que la mort de son père avait été inventée et qu'il se cachait dans quelque pays lointain. Comme jadis, il se reprenait à douter. Il leva la tête, regarda le ciel où couraient de gros nuages noirs. Il eut alors la sensation de s'élever vers eux, d'être jeté de l'un à l'autre sans mal, comme d'un lit de dortoir à l'autre, de parcourir en quelques secondes des milliers de kilomètres. C'était reposant comme de se balancer. Mais tout à coup, il tomba ainsi qu'une pierre. Il cligna des yeux, croyant sortir d'un rêve, se trouver allongé sur un lit, et reconnut la rue où il se tenait immobile. « Je dois avoir la fièvre, » se dit-il. « Le plus sage, je crois, est de rentrer. » Déjà, le ciel s'éclairait légèrement. Des lumières reposées naissaient au fond de quelques magasins. « Je vais me coucher. Je dois m'imaginer une foule de choses qui n'existent pas. » Il lut avec attention le nom des rues et, à pas rapide, se dirigea vers l'hôtel où sa mère, anxieuse, devait l'attendre. Lorsqu'il eut refermé la porte de la chambre, il resta un instant indécis. Madame Aftalion dormait. Il apercevait, à la lueur de l'aube, les meubles misérables, les objets qui traînaient à terre. Finalement, il s'allongea tout habillé. Ses tempes bourdonnaient. Il entendait des bruits extraordinaires, des cloches, des trains, des sirènes. Il ne pouvait s'endormir. De temps en temps, des sursauts faisaient qu'il se dressait, les yeux hagards, sur son lit. Soudain, il crut entendre un cri déchirant. Il se leva d'un bond. « Maman, c'est toi qui as crié ?» Personne ne répondit. Il écouta avec anxiété. Tout demeura silencieux. Alors il s'étonna que sa mère ne lui eût pas répondu. « Je n'ai peut-être rien dit, » pensa-t-il. De nouveau, il s'allongea. « Je vais m'endormir, » murmura-t-il au bout d'un moment. Il entr'ouvrit les yeux. Une clarté grise donnait aux vitres de la fenêtre une transparence paisible d'eau. « Le jour se lève, je crois. » Il baissa les paupières, sentit que sa respiration devenait régulière. Le sommeil le gagnait lorsque tout à coup il eut la sensation qu'il avait fréquemment d'étouffer. « Mais je vais mourir !» pensa-t-il une seconde. Il eut beau gesticuler, se débattre, la respiration lui manquait toujours. Comme un fou, il se leva, alla droit devant lui, renversa une chaise qui se trouvait sur son passage, se heurta au front contre la porte ouverte d'un placard. La violence du choc le ranima d'un coup. Il était baigné de sueur. Dans le jour naissant, il vit sa mère assise sur son lit, il l'entendit qui criait « Nicolas ! Nicolas !» En l'espace d'un instant, il retrouva sa lucidité, se souvint de tout. « As-tu donné notre adresse à Charles ? » demanda-t-il aussitôt. « Qu'est-ce que tu as ? Je te demande si tu as donné notre adresse. »«
Je ne me le rappelle plus. » »«
Oui ou non ?»«
Oui, je crois. »
Les yeux grands ouverts, il regarda sa mère. Elle lui parut plongée dans une profonde quiétude. Les traits reposés, le visage comme lavé par une nuit sans mouvement, entourée des objets auxquels elle était accoutumée, elle n'avait point quitté cette chambre où le désordre et la saleté étaient empreints d'une douce intimité. Personne ne lui voulait de mal. Des habitudes l'entouraient. Comme chaque matin, elle jetterait sur le lit sa chemise de nuit quand elle s'habillerait. Ce soir, comme chaque soir, elle hausserait son oreiller en glissant sous lui un vieux manteau. Et cela, cependant que Charles se préparait à venir le retrouver. Les soirées interminables que Nicolas avait passées, assises à côté de la fenêtre ouverte, se présentèrent devant ses yeux. Tout cela était fini. Maintenant, il allait falloir donner des explications, se défendre, sans que cela vînt même atténuer le dénuement des aphtalions.
« Nicolas, qu'est-ce que tu as ?»«
Je n'ai rien. »«
Recouche-toi, c'est encore trop tôt pour se lever. » »«
Je n'ai plus sommeil. » »«
Tu as dormi ?»
Puisque je viens de rentrer.
As-tu trouvé quelque chose ?
Rien.
Ce n'est pas gentil, Nicolas. Pourquoi me réveilles-tu alors ? Il faut me laisser dormir le plus longtemps possible. On dirait que tu cherches à me faire penser à cela. On a le temps dans la journée.
Sur ces mots, Madame Aphtalion se tourna vers le mur, ferma les yeux et essaya de s'endormir, cependant que Nicolas, assis sur son lit, les mains posées à côté de lui, regardait fixement ses pieds. Au bout d'un moment, sa mère lui demanda
« Es-tu couché ?»«
Je n'ai pas sommeil. » Elle se retourna, s'accouda sur un bras.
« Couche-toi donc ! Quelle heure est-il d'abord ? »
« 6 heures. »«
7 heures. »« Tu vois comme il est tôt. »
« Et le propriétaire ?»«
Nous parlerons de cela plus tard. »
« Ce que tu es agaçante tout de même !» Si je ne veux pas dormir, je suis libre. D'ailleurs, je suis libre pour tout. J'en ai assez. Je ne peux plus vivre comme cela. Je préfère me jeter à l'eau. J'ai 24 ans. Tous les jeunes gens de 24 ans ont des distractions. Je vis comme un chien. Je n'ai rien, jamais rien. Je n'ai jamais rien eu, d'ailleurs. Je suis obligé d'aller courir partout demander de l'argent. Il arrive des histoires idiotes. C'est compréhensible qu'il arrive des histoires quand on n'a même pas de quoi prendre un tramway.
Et moi ?
Toi aussi, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais tu ne sors pas.
J'aimerais mieux sortir.
Sors comme moi. Sors, tu verras ce que c'est. J'en ai assez, j'en ai assez.
Cela ne peut plus durer. Je ne veux plus que cela continue. Et quoi faire? Quoi faire? Hein? Dis-moi, quoi faire?
Je ne sais pas. Mon Dieu, si je pouvais savoir, je te le dirais.
Enfin, tu as plus d'expérience que moi. Tu n'as pas une idée? Non, naturellement. D'ailleurs, il n'y a pas d'idées à avoir. Quand il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. C'est simple, ce n'est même plus la peine de chercher. On cherche quelque chose. Quand il n'y a rien à chercher, ce n'est pas la peine de perdre son temps. Et que je le perde ou que je ne le perde pas, c'est la même chose. Je sors.
Mais où vas-tu?
N'importe où.
Nicolas, je t'en supplie, reste près de moi. Où veux-tu aller à cette heure? Réfléchis donc.
Ce n'est pas la peine. Il s'approcha de la porte, puis se retourna. Sans dire un mot, sa mère le regardait partir. Une telle expression de tristesse et de résignation était peinte sur son visage qu'il n'eut plus le courage de la quitter. Il revint sur ses pas, s'assit près d'elle sur le bord du lit.
« Tu sais, Nicolas, je ne t'empêche pas de sortir. Tu es libre. Je ne veux pas que tu penses que je suis la cause de ton malheur. »
« Je le sais. » Il était ému. Sa fatigue, sa nervosité étaient telles qu'il se mit à pleurer. Pour la première fois depuis des mois, il sentait le besoin d'être bercé comme un enfant par sa mère. Il s'approcha encore d'elle et, se courbant, posa sa tête sur sa poitrine.
« Dis-moi, maman, tu crois que cela va durer toujours ?»« Je ne sais pas, mon petit. Ah, mon Dieu, si je pouvais faire quelque chose !»«
Tu ne sais pas ?»
« Pauvre Nicolas! Si, tout va s'arranger. Il faut avoir confiance, tu verras. »«
Comment ?»«
On ne peut pas savoir maintenant, mais je suis sûre que tout va s'arranger. »
Il se leva. « Je vais sortir quand même. Cela ne te fait rien, maman. »«
Sors si tu veux. »
Une rosée légère recouvrait les bancs et les grillages. La brume se dissipait lentement. Le soleil, un peu au-dessus de l'horizon, était d'un rouge pâle. Pas un nuage ne tachait le ciel. Il faisait froid. La journée s'annonçait radieuse. Arrivé sur le Champ de Mars, Nicolas hésita un instant. Il ne savait quelle direction prendre. Finalement, il se dirigea vers le Trocadéro, dont il apercevait les deux tours voilées par la brume. Au sommet d'une maison, une coupole étincelait. Les arbres, déjà dénudés, se détachaient nettement sur l'air bleu. La vie était si belle ce matin-là qu'il s'efforça de tout oublier. Le désir de partir pour un pays lointain le hantait. Mille aspirations s'éveillèrent en lui. Le vent frais qui fouettait son visage le grisait. Mais quand il se rappelait la chambre où il avait laissé sa mère, sa condition, quand il songeait au lendemain, le calme de ce matin lui apparaissait intolérable. Il contrastait tellement avec son état qu'il souhaitait alors de toutes ses forces que le ciel se couvrit aussitôt et que la pluie se mit à tomber. Bientôt, il arriva sur les bords de la Seine qui coulait silencieusement. Durant quelques minutes, il longea les quais dont tous les arbres, comme attirés par l'eau, penchaient vers le fleuve, puis il descendit sur les berges désertes. Il lui plaisait, au milieu de sa détresse, de côtoyer ce fleuve qui, en un instant, eut mis fin à ses maux. Sa présence le ranimait et lui semblait devoir donner plus de prix à la vie qu'il menait. Il venait de parcourir une centaine de mètres lorsque l'idée lui vint de s'arrêter juste au bord de la berge. Il avança vers le fleuve. Sous lui, des vaguelettes se brisaient contre les pierres. Le soleil était déjà plus haut dans le ciel. L'eau unie miroitait sur de larges espaces. « Je n'aurai qu'à faire un pas et tout serait fini, » pensa Nicolas. Ses yeux ne pouvaient quitter les légers remous qui creusaient la surface de l'eau à quelques mètres de lui. Petit à petit, sans même qu'il s'en rendît compte, des raisonnements étranges s'ébauchèrent en lui. « Si je me jetais à l'eau, qu'est-ce qui arriverait ?» se demandait-il. « En réalité, c'est très simple. » Je n'ai qu'à faire un pas, un seul pas en avant. Qu'est-ce qui m'empêche de faire ce pas ? Cette curiosité qui s'abat sur les esprits malades commençait à s'éveiller en lui. Déjà, aucun instinct de conservation ne balançait l'attrait de cet acte qui était en son pouvoir. Il faiblissait sans s'en apercevoir, d'autant plus que devant le fleuve, il avait la certitude préétablie que jamais il n'attenterait à ses jours. « Qu'est-ce qui arriverait si je faisais un pas en avant ?» se demanda-t-il de nouveau. « Il arriverait que tout serait fini. »« Oui, mais comment ?» Tout à coup, alors que justement à cette seconde, son attention avait été détournée par un promeneur lointain, il fit ce pas en avant. Dans le temps que dura sa chute, il vit la lumière resplendissante du ciel, le soleil tangué comme s'il n'eût aperçu de lui que son image sur les flots mouvants. Puis il eut l'impression qu'on l'arrachait brutalement à cette vision. Au contact de l'eau, il sentit qu'il n'était déjà plus maître de lui, qu'une force obscure prenait possession de son corps plus complètement que les pires bandits qui n'eussent pu que le tirer par les membres. Des pieds à la tête, il était enveloppé. Pourtant, avant de couler, il aperçut encore au-dessus de lui, à travers une couche transparente d'eau, le ciel immense. Il n'était plus bleu. Il s'assombrissait de plus en plus. Alors il n'eut qu'un but, s'accrocher à la berge qu'il imaginait à sa droite, alors qu'elle se trouvait du côté opposé. Il se débattit. Toutes les raisons qui l'avaient amené à se jeter dans le fleuve s'étaient évanouies. Il eut vaguement conscience qu'aucune douleur sur terre, aussi grande fût-elle, ne pouvait expliquer un tel acte. Instinctivement, il ouvrit la bouche pour respirer. L'eau qu'il absorba le suffoqua. Il la rejeta, voulut respirer quand même, absorba une autre gorgée d'eau plus forte encore. Comme si la vie l'eût déjà abandonné et que le passé cessa d'être une succession de fêtes, il vit alors devant lui, dans le court répit qui suivit cette première suffocation et qui était sans doute le calque minuscule de l'apaisement qui, sur terre, suit toute douleur, la foule innombrable des gens qu'il avait connus. Il les regarda tous. Puis, bien qu'il fût devant la mort, quelque chose d'infime qui restait de sa personnalité fit que, durant un millième peut-être de seconde, il voulut s'assurer que, dans cette foule, se trouvait bien un camarade de collège qui n'avait joué aucun rôle dans sa vie et qui, pour une raison inexplicable, venait de se présenter dans sa mémoire. Il n'en eut pas le temps. Une sensation d'étouffement chassa toute pensée de son cerveau. Soudain, il lui parut qu'il remontait vers la surface. L'eau, au-dessus de lui, s'éclairait. Il ouvrit encore la bouche pour respirer cette lumière. La suffocation, cette fois, fut telle qu'il perdit connaissance.